comme les prévoyants maîtres de chantier, protégez vos ouvrages avec Suno Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Pas de gêne, de crise, ni même de douleur. C'est en silence que s'installe l'hypertension, la plus fréquente des maladies chroniques, puisqu'elle concernerait plus d'un adulte sur trois. Silencieuse, insidieuse, mais lourde de conséquences, puisqu'en l'absence de traitement, l'hypertension a un impact sérieux sur la santé cardiaque, peut accroître les risques d'AVC, entraîner des complications rénales. À titre préventif, donc, contrôler sa tension, surveiller son alimentation et lutter contre la sédentarité. Et lorsque l'hypertension est diagnostiquée, engager un suivi associé à un traitement au long cours, apporter des modifications à l'hygiène de vie en matière justement d'équilibre alimentaire et d'activité physique. Car traiter l'hypertension, ce n'est pas simplement prendre des médicaments à vie, c'est aussi reconsidérer certaines habitudes. L'hypertension vous concerne, vous avez des questions, des témoignages à apporter, appelez-nous 33 84 22 75 75 et nous attendons aussi vos messages sur notre page Facebook. Journée mondiale de l'hypertension artérielle. Avec nous en studio, le professeur Xavier Girard. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes cardiologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris, président de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle. Nous joindrons tout à l'heure le professeur Jacques Blacher, cardiologue, chef de service du Centre de diagnostic et thérapeutique à l'hôpital de l'Hôtel Dieu de Paris. Avec lui, on va évoquer une vaste étude engagée et qui concerne les maladies chroniques, l'hypertension en particulier. À terme, elle ambitionne de toucher près de 200 000 sujets. Et puis, nous serons en ligne avec le Niger. On va retrouver le docteur Haruna Bako, cardiologue, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux, chef de service de cardiologie de l'hôpital national à Niamey. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Question aussi simple que brève, professeur Xavier Girard. Comment bien prendre sa tension ?
On a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années pour la mesure de la pression artérielle, car on est passé d'une technique qui imposait d'écouter des bruits à une technique qui impose d'appuyer sur un bouton. Cette technique, c'est celle qui est utilisée par les tensiomètres automatiques, et aujourd'hui, toutes les recommandations nationales et internationales ont fait une place prioritaire à ces techniques de mesure automatique. Donc je vous dirais, pour bien mesurer sa tension, il faut avoir un appareil pour mesurer la tension et appuyer sur le bouton. Oui, c'est pas plus compliqué que cela. Et ça a tellement évolué qu'aujourd'hui, des campagnes d'auto-dépistage de l'hypertension artérielle sont promues. La Fondation de recherche sur l'hypertension avec la Fédération française de cardiologie va en septembre prochain lancer une grande campagne nationale, le septembre du dépistage de l'hypertension, où on va pousser tous ceux qui sont en possession d'un appareil de tension de pouvoir mesurer leur pression artérielle pour connaître leur niveau tensionnel.
Alors un certain nombre de personnes n'a pas entre les mains ces fameux appareils. Dans ce cas-là, j'imagine qu'on va chez le médecin, on va dans une clinique, on va dans un dispensaire dans certaines régions du monde. Alors justement, à quelle fréquence et pour quelle motivation en fait va-t-on vérifier sa tension ?
La mesure de la pression artérielle, on doit commencer à s'en préoccuper en fonction de son histoire familiale. Si vous êtes dans une famille où votre père ou votre mère a une hypertension qui est traitée avant l'âge de 40 ou 50 ans, vous devez vous préoccuper de votre niveau tensionnel dès l'âge de 20 ans et mesurer une fois par an au moins la pression artérielle une fois. Si vous n'êtes pas dans le cadre de cette famille d'hypertendus, l'hypertension artérielle, c'est le compagnon du vieillissement et c'est le compagnon de la prise de poids. Donc si vous prenez du poids, vous devez mesurer votre pression artérielle car cela peut être la conséquence de la prise de poids. Toutes les prises de poids ne s'accompagnent pas d'une hypertension, mais dans 50% des cas, vous pouvez avoir une augmentation de votre niveau tensionnel et devenir un hypertendu. Et puis si vous franchissez l'âge de la retraite, aux alentours de la soixantaine, il faut absolument mesurer sa pression artérielle parce que je le redis, l'hypertension, c'est une maladie liée au vieillissement artériel. La cause de l'hypertension la plus fréquente dans tous les pays du monde, c'est le vieillissement artériel. C'est pour ça que le nombre des hypertendus a augmenté de façon très considérable sur la planète, parce que nous sommes plus nombreux et nous sommes plus nombreux à être vieillissants.
Alors, quand on parle d'hypertension, souvent on entend parler de deux types d'hypertension différentes, essentielle ou secondaire. C'est quoi la différence entre les deux?
Moi, je vous dirais qu'il n'y a en fait pas deux types d'hypertension. L'hypertension, c'est toujours la même. C'est le mauvais fonctionnement des artères. Et il y a la fausse hypertension, celle qui est souvent reconnue par les patients comme la cause de l'hypertension, qui serait le stress. Non, le stress, c'est pas la cause de l'hypertension, c'est la cause de l'élévation de la pression artérielle.
C'est une confusion en fait entre les deux.
C'est une confusion très fréquente, et les patients ou les individus qui ne sont bien portants ont eu une mesure tensionnelle élevée et attribuent à cette mesure tensionnelle élevée des raisons psychologiques, personnelles, familiales, au travail. Voilà, ils étaient stressés, leur tension était élevée, c'est vrai. Il faut pouvoir confirmer l'élévation tensionnelle par justement la mesure que l'on fait soi-même au domicile. C'est ce qu'on a appelé l'automesure tensionnelle, qui s'est énormément développée dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de patients qui vivent en Afrique et qui ont les appareils de tension qui leur permettent de surveiller eux-mêmes leur pression artérielle pour en faire le diagnostic et pour la surveiller lorsqu'ils sont sous traitement.
Alors, on observe aussi que chez certaines personnes, chez certains patients, professeur Xavier Girard, cette hypertension artérielle survient conjointement à d'autres maladies.
Alors oui, l'hypertension artérielle peut être le signe d'autres maladies. Les causes principales sont les causes des maladies des reins. Donc quand on a une maladie rénale, on est toujours ou presque toujours hypertendu. Plus rarement, ce sont des maladies des glandes situées au-dessus des reins qu'on appelle les surrénales. Alors, c'est des maladies qui sont fréquentes à ma consultation de spécialiste à la Salpêtrière, mais qui sont très exceptionnelles dans le cadre général de l'hypertension. C'est là qu'on va dire hypertension secondaire à une maladie des reins ou des glandes surrénales, ou une hypertension sans maladie, et qu'on appelle essentielle en France, qu'on appelle primary hypertension en anglais, qui veut mieux dire primaire, primitive en quelque sorte, qui est la conséquence du mauvais fonctionnement des artères, ce mauvais fonctionnement pouvant survenir assez tôt si on a la génétique pour cela, ou assez tard si on est juste un sujet qui a vieilli son système artériel. On a la peau qui se ride, on a les artères qui deviennent plus rigides, et quand les artères deviennent rigides, on devient hypertendu.
Alors, avant de prendre en ligne les auditeurs de Priorité Santé, nous allons d'abord, si vous le voulez bien, nous arrêter sur une vaste étude conduite en ce moment par des médecins de l'Hôtel Dieu à Paris. Pour en parler, on vous retrouve. Professeur Jacques Blacher, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour Xavier Girard.
Bonjour Jacques.
Alors, vous êtes chef de service du centre de diagnostic et thérapeutique à l'hôpital de l'Hôtel Dieu, un professeur à l'Université Paris-Descartes. Une très grande étude qui porte sur, on va dire, les maladies chroniques en général, à l'initiative de Philippe Ravo, chef de l'épidémiologie à l'Hôtel Dieu. Alors vous, votre travail, c'est en quelque sorte le dossier hypertension artérielle, professeur Blacher, avec une cohorte, un groupe d'études qui est lancé. Vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne précisément?
Eh bien, cette étude compare, c'est une communauté de patients qui vont se prêter à la recherche. L'idée est que, en dehors des médecins, les patients hypertendus puissent s'inscrire sur cette communauté à travers le site internet qui est compare.aphp.fr. Et cette inscription va leur demander de pouvoir répondre à un questionnaire une fois de temps en temps pour donner des informations sur leur maladie chronique, donc leur hypertension artérielle. Et on va essayer, nous chercheurs dans l'hypertension artérielle, d'essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que ces patients hypertendus ne sont pas toujours à l'objectif, pourquoi de temps en temps ces patients hypertendus ont du mal à prendre les médicaments, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne supportent pas leur traitement, les raisons pour lesquelles ils ne suivent pas les conseils des médecins. Et donc l'idée, bien entendu, c'est d'essayer d'avancer pour améliorer en France le contrôle de l'hypertension artérielle qui aujourd'hui est assez médiocre.
Et justement, ces patients, vous comptez les suivre sur une durée de combien de temps, professeur Blacher?
Alors idéalement, nous allons les suivre sur une durée de 10 ans. On envisage dans un premier temps au moins 10 000 patients suivis pendant 10 ans. Et les patients, s'ils le désirent, vont nous donner l'autorisation de pouvoir mettre en relation leur identité avec les événements de santé qui va leur arriver si jamais un jour ils doivent être hospitalisés pour une complication de leur hypertension artérielle. Bien entendu, l'anonymat sera intégralement respecté.
Alors, si j'ai bien compris, professeur Blacher, les personnes vont s'inscrire d'elles-mêmes. Est-ce qu'ensuite, il y aura des interactions entre l'équipe de médecins-chercheurs et ces personnes qui sont atteintes de maladies chroniques ?
Alors, je dirais oui et non, puisque l'idée, c'est que réellement, cette communauté de patients pour la recherche soit réalisée en dehors de la prise en charge médicale. Et donc, c'est vraiment la communauté qui va aider les chercheurs à mettre en place différentes études, encore une fois, pour faire avancer les connaissances en matière d'hypertension artérielle. Mais les patients hypertendus qui vont s'inclure dans cette communauté vont pouvoir nous aider à améliorer leur prise en charge. Il y a eu tout récemment, dans le British Medical Journal, le premier papier de cette cohorte où on a répertorié l'intégralité des réponses de 1600 patients à qui on a posé la question très simple. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans votre prise en charge médicale ? Et c'est extrêmement intéressant de voir comment, par des moyens assez simples, on pourrait améliorer la prise en charge de nos patients porteurs d'une maladie chronique.
Et c'était quoi la réponse la plus souvent citée par ces patients ?
Alors, il y avait globalement 150 axes d'amélioration, c'est bien décrit dans l'article. On va bien entendu pas parler des 150 axes.
Non, on n'aura pas le temps, non, c'est sûr.
Non, bien sûr, mais il y a des choses en fait extrêmement simples. Extrêmement simples dans l'accueil, dans la personnalisation, dans le fait de pouvoir ne pas faire attendre les patients pendant un temps infini à la consultation. Donc des toutes petites choses qui sont des détails, mais qui, en modifiant à la marge l'organisation, permettent d'améliorer la relation qui existe entre le patient et son médecin.
Merci beaucoup, professeur Jacques Blacher. Je rappelle que vous êtes chef de service du Centre de diagnostic et thérapeutique à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Paris. On vous retrouve, professeur Xavier Girard. Vous présidez pour votre part la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle. Alors, quelles sont justement de votre côté les pistes actuelles ? Là, on a vu cette vaste étude avec les comportements, on va dire, aussi bien des médecins, des patients qui sont passés au crible, certainement dans un souci d'améliorer l'observance. De votre côté, ce sont quoi ces axes de recherche ?
Alors, les axes de recherche en hypertension artérielle, il faut l'avouer, sont plutôt dans une période de calme plat. L'hypertension artérielle a été un grand sujet de santé publique jusqu'à il y a une dizaine d'années dans tous les pays du monde, très porté par l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique a joué un rôle extrêmement important car elle a mis au point des médicaments très efficaces, très bien tolérés, très protecteurs. Et malheureusement, l'industrie pharmaceutique a abandonné ce domaine pour d'autres domaines qui sont le cancer, les maladies neurologiques. Et donc, nous n'avons plus une recherche pharmacologique autour de l'hypertension. Et aujourd'hui, on est face à un problème qui est un problème très particulier. Le professeur Blacher en disait un mot. On voit se dégrader la qualité de la prise en charge de l'hypertension artérielle en France.
On n'est plus sur le chimique, on est quasiment sur le relationnel, sur le soin,
Non, je vous dis pas ça, madame. On voit se dégrader la prise en charge. C'est-à-dire qu'il y a moins d'hypertendus traités en France en 2017 qu'en 2012.
Comment ça se fait ?
Eh ben, ça se fait parce que les patients...
Il y a un problème de sensibilisation ou d'abandon des traitements ?
Il y a un problème de sensibilisation, de dépistage de l'hypertension. Les médecins généralistes dépistent moins l'hypertension artérielle. La médecine du travail est très en difficulté en France. Les patients vont moins à la médecine du travail, donc il y a moins de dépistage. Et puis, il y a une grande défiance de la part de la population vis-à-vis des médicaments. Vous avez, vous, journalistes, beaucoup participé à la médiatisation des cas les plus tragiques, des médicaments qui rendent malades, des effets indésirables des traitements. Et maintenant, les patients ne veulent plus être traités. Et on a des refus de soins. Et ces refus de soins se traduisent, malheureusement, on le sait, par un risque augmenté, car malheureusement, l'hypertension artérielle, on ne peut pas faire mieux que de prendre un médicament. On peut à la marge faire quelques efforts nutritionnels, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais il n'y a pas mieux que de prendre un traitement antihypertenseur. C'est peut-être très injuste, mais on est dans les maladies chroniques. Les maladies chroniques comme le diabète, par exemple. Le diabète, on sait que les médicaments sont assez efficaces, mais que les mesures non médicamenteuses sont plus efficaces. Malheureusement, pour l'hypertension, c'est l'inverse. Les médicaments sont les plus efficaces et les mesures non médicamenteuses sont très peu efficaces. Donc, il faut prendre des médicaments et les gens, aujourd'hui, ne veulent plus prendre de médicaments.
Alors, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs. On va voir justement qu'un certain nombre de ces auditeurs se posent des questions sur le point précis des traitements.
Priorité santé sur RFI.
Alors le premier de ces auditeurs que nous avons en ligne nous appelle du Gabon, de Libreville, c'est Guy Roger. Bonjour Guy Roger.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute.
Oui, je voudrais poser une question au médecin, que je salue au passage.
Bonjour monsieur.
Je suis hypertendu depuis une vingtaine d'années, j'en ai 58. Mon père était hypertendu, ma mère aussi. Est-ce que ça voudrait dire que ma progéniture aussi, forcément, l'aura?
Alors effectivement, vous décrivez parfaitement cette forme d'hypertension que j'appelle personnellement l'hypertension familiale et qui fait qu'il y a bien un gène, une nature génétique à votre hypertension artérielle. Je ne peux pas vous dire quel est ce gène, ça fait 30 ans qu'on cherche les gènes de l'hypertension. On ne les a pas trouvés parce qu'il n'y en a probablement pas un, mais des gènes. Alors cette partie génétique, vos enfants l'auront en partie, mais ils peuvent tout de même tenter de contrebalancer cette partie génétique par une bonne hygiène de vie. Et le conseil à leur donner est sûrement, au-delà du fait qu'ils doivent mesurer leur pression artérielle tous les ans dès l'âge de 20 ans, puisque leurs deux parents sont hypertendus, il faut vraiment qu'ils fassent attention à ne pas prendre du poids et probablement à faire très attention à ne pas enrichir leur alimentation en produits riches en sel caché. Et pour l'Afrique, puisque j'ai compris que vous habitiez à Libreville, le grand piège, c'est les bouillons cubes. Voilà, donc il faut qu'à la maison, le bouillon cube soit banni de la préparation des plats et que vos enfants puissent prendre l'habitude de saler eux-mêmes les aliments, mais de ne pas rajouter le cube dans toutes les préparations qu'ils seraient amenés à faire pour leur quotidien.
D'où cette question, Guy Roger, est-ce qu'à la maison, dans les préparations culinaires, à la cuisine, il y a ces fameux bouillons avec justement qu'on met dans les ragoûts, dans les sauces?
Non, ça a été banni.
Déjà c'est une bonne mesure.
Ça a été banni.
C'est pas sur ordonnance, mais en tout cas, c'est ce que conseille fermement le professeur Xavier Girard. Et d'ailleurs, dès qu'on a des nutritionnistes qui nous parlent de la qualité de l'alimentation, eh bien, on met à l'index ces fameux bouillons parce que déjà en plus rajoute du sel après, donc c'est la double peine pour les artères.
Voilà, vous parliez de qualité, madame, je parlerai de quantité. Il faut savoir que dans un cube, en tout cas en Europe, les cubes font 11 grammes et il y a 5 grammes de sel. Je sais qu'en Afrique, il y a des cubes qui sont de grande taille, qui font donc plutôt 20 grammes et à l'intérieur, il y a 15 grammes de sel. Voilà, donc il faut savoir que quand on rajoute un cube, on ajoute une quantité de sel qui est trop importante par rapport aux besoins qui sont d'avoir entre 8 et 10 grammes de sel par jour quand on est bien portant. Quand on habite dans un pays chaud, c'est important de manger du sel parce que le sel permet de lutter contre la déshydratation. Donc, il faut sûrement pas se mettre au régime sans sel, mais il faut éviter ces pièges que sont les apports en quantité trop importante du sel, en particulier par le cube. Il y a un gros apporteur de sel aussi qui est le pain. Dans les pays du Maghreb en particulier, où on est de gros mangeurs de pain, eh bien l'apport du pain en quantité excessive fait aussi un apport de sel en quantité excessive.
Voilà Guy Roger pour ces informations, ces éclaircissements donnés par le professeur Xavier Girard. Très bonne journée à vous à Libreville. On part pour le Togo, pour Lomé, où l'on retrouve Françoise. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute, le professeur Girard est à l'écoute.
Alors, moi, ça fait longtemps que je suis diabétique et mon médecin, depuis 4 ans, je pense, m'a prescrit des comprimés contre la tension de micardis. Chaque matin, je prends ma tension et je ne vois pas pourquoi tous les jours je prenais un comprimé alors que ma tension est correcte entre aussi de 13,8.
Alors, madame,
est-ce
je vais vous dire...
Je prends le comprimé chaque jour.
Oui. Alors, je vais vous dire que ce que vous auriez à prendre tous les jours, ce n'est pas votre tension. Mais c'est votre comprimé. Et si votre tension est bien tous les jours, c'est parce que vous prenez le comprimé. Le traitement de l'hypertension artérielle, ce n'est pas le traitement qui va agir tout de suite. Il lui faut une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines avant de montrer son effet. Donc, ne prenez pas l'idée que, en fonction de la tension que vous mesurez le matin, vous allez prendre ou ne pas prendre le traitement. Parce que, c'est en quelque sorte, le comprimé, c'est comme l'essence qu'on met dans le réservoir de sa voiture. Hein. On va chez le pompiste tous les 15 jours ou toutes les semaines et pourtant la voiture marche tous les jours. Eh bien, le traitement de l'hypertension, c'est la même chose. Donc, je vous dirais, ne prenez pas votre tension tous les jours. Ça sert à rien, mais prenez le comprimé tous les jours. C'est ça qui vous protège.
Voilà, François, ces conseils. Par contre, vous prenez votre traitement sans discuter pour le diabète.
Ah, ben évidemment, parce que ça fait longtemps que je suis diabétique.
Oui, mais pourquoi avoir ces réticences sur l'hypertension? Pourquoi avoir des réticences à vous traiter votre hypertension quand vous n'avez pas de réticence à traiter votre diabète?
Parce que moi, j'ai pas l'impression d'être hypertendue.
Mais on le disait tout à l'heure au début de l'émission, cette impression, professeur Blacher, on n'a pas l'impression, on n'a pas le sentiment d'être, professeur Girard, pardon, d'être hypertendu parce que on ne le sent pas, on ne le ressent pas.
Moi, je pense, Françoise, que ce qui pourrait vous aider, effectivement, quand vous décidez de mesurer votre tension, la prendre tous les jours n'est probablement pas nécessaire. Mais il faudrait que tous les mois, vous la puissiez la mesurer, comme ça. Vous dites, lundi, mardi, je mesure ma tension. Et c'est ça qui vous apportera l'assurance que vous êtes protégé des méfaits de l'hypertension. Si votre tension est à 130-80 avec l'appareil que vous utilisez, vous serez rassuré, vous êtes protégé. En revanche, vous n'avez pas à attendre des signes de la tension parce que aujourd'hui, et pour vous, c'est l'essentiel, vous n'avez pas de symptômes de la tension. Le symptôme de la tension que vous pourriez avoir un jour, c'est la paralysie, c'est l'hémiplégie. Et on vous protège de la paralysie grâce au traitement que vous prenez tous les jours. Donc c'est ça qui devrait vous motiver et qui devrait vous rassurer aussi.
Voilà Françoise, on vous souhaite une bonne journée à Lomé au Togo. On part pour le Burkina, Ouagadougou. On retrouve sur place Youssouf. Bonjour Youssouf.
Bonjour Caroline, bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé.
Le professeur Girard est à votre écoute.
Merci professeur, bonjour.
Bonjour monsieur.
Je suis âgé de 36 ans avec un poids de 75 kilos. J'ai une formation militaire, je suis hypertendu depuis 2008. Au départ, mon médecin traitant m'avait recommandé l'amapine 5 mg. J'en ai fini 3 boîtes sans aucun résultat satisfaisant. Je signale que du côté familial, aucun hypertendu n'a été diagnostiqué et la moyenne de ma tension artérielle varie entre 14 et 15. Je signale que j'ai déjà enregistré 18 comme tension artérielle. Donc, ma question, c'était de savoir quelles sont les conduites à tenir. Y a-t-il un traitement que vous puissiez me recommander? Parce que actuellement, je suis actif, je fais régulièrement le sport, mais j'ai une crainte lorsque, à un moment donné, je ne pourrai plus faire le sport, quel sera mon état de santé? Merci,
alors,
professeur.
Je vais vous répondre, Youssouf. Si vous avez quelque chose à faire, c'est d'abord d'être précis dans la mesure de tension que vous réalisez. Vous m'avez dit, j'ai entre 14 et 15. Aujourd'hui, vous utilisez un appareil automatique pour mesurer votre tension? Est-ce que c'est un appareil, vous appuyez sur le bouton et il y a l'affichage du chiffre 140, 150, et il y a un deuxième chiffre qui est le chiffre dit diastolique. Je vous en parle parce que quand on a moins de 40 ans, c'est en fait ce chiffre-là qui compte. Plus que le premier chiffre. C'est le 80 ou 90 ou éventuellement 100, celui qui est la deuxième ligne sur l'appareil. Et ce chiffre-là, c'est celui-là qui, quand on a moins de 40 ans, doit conduire à considérer qu'on a une hypertension quand il dépasse 90. Si vous êtes à plus de 90 pour le chiffre dit de diastolique, vous êtes un hypertendu et malheureusement, la racine, ça ne soigne pas l'hypertension. Les médecines traditionnelles sont extrêmement peu efficaces pour le traitement de l'hypertension. Il faut aller vers des médecines conventionnelles, médicamenteuses. Le choix du médicament pour le patient qui vit à Ouagadougou est un choix qui peut être un peu différent de celui qui vit à Paris parce qu'il y fait plus chaud, parce que certains médicaments sont plus efficaces que d'autres. Je parlerai de la famille des antagonistes calciques, très efficaces chez le patient africain. L'amlodipine, je vais donner ce nom-là, c'est vraiment un nom très important pour les auditeurs qui auront ce médicament sur leur ordonnance, qu'ils soient rassurés, c'est un médicament très efficace, très adapté à l'hypertension artérielle chez l'Africain et qui est plus efficace que l'activité sportive, que la racine ou que quelques autres méthodes qui soient des méthodes traditionnelles du traitement de l'hypertension.
Youssouf, ça fait combien de temps que vous avez consulté pour votre hypertension ?
La dernière fois que j'ai fait prendre ma tension remonte à un mois. Parce que enfin, le fait de prendre à tout moment, ça me stresse beaucoup. Donc, j'ai espacé ça. Chaque un mois, je fais le tout pour tout possible pour pouvoir prendre ma tension.
D'accord. Et Youssouf, votre chiffre de tension était combien pour le deuxième chiffre qui s'affichait sur l'appareil ou qui a été donné par le... Vous êtes allé prendre la tension au dispensaire ou à la pharmacie ou vous avez un appareil ?
Je n'ai pas un appareil personnel, c'est à la clinique que je me suis rendu pour prendre la tension.
D'accord. Donc vous demanderez à l'infirmière ou au responsable qui a pris la tension de vous annoncer le deuxième chiffre. Et ce deuxième chiffre, s'il dépasse 9 ou 10, 90 avec un appareil automatique, Youssouf, vous devez être considéré comme un hypertendu. Et mon conseil est de vous rapprocher d'un médecin qui pourra vous donner un traitement qui va vous protéger pour les années qui viennent. Parce que Youssouf, vous avez 36 ans. Si vous ne soignez pas votre hypertension artérielle, vous êtes exposé dans les 10 ans qui viennent à faire un accident vasculaire cérébral. Est-ce que dans votre famille, vous avez des gens qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux autour de vous, vos amis, vos proches ?
Pas connu.
Pas connu. Eh bien, heureusement pour vous, protégez-vous donc pour être comme vos amis.
Une précision, professeur. Pour le deuxième chiffre, je n'ai jamais atteint 9. C'est toujours 8. 14, 8, 15, 8. Je n'ai jamais atteint 9.
Alors, dans ce cas-là, c'est une bonne attitude de ne pas débuter le médicament. Je le redis pour tous nos auditeurs, quand on a moins de 40 ans, c'est le deuxième chiffre qui est celui qui est le plus important.
Voilà donc pour toutes ces précisions, bien. Youssouf. Bonne journée à Ouagadougou. On part au Mali, à Bamako, où l'on retrouve Zibrila. Bonjour Zibrila.
Et bonjour Caroline.
On vous écoute, le professeur Girard est à votre écoute, allez-y.
Alors, moi, ma mère est hypertendue pendant plus de 20 ans. Et depuis son diagnostic, elle est sous traitement chez un médecin qui, en plus des médicaments, lui a déconseillé la consommation de sel tous les jours à partir de 16 heures. Elle prend régulièrement les médicaments qu'on lui donne et respecte strictement les consignes de son médecin. Mais malgré tout cela, sa tension ne s'améliore pas et elle varie entre 18 et 22 contre 10-12. Et récemment, après une crise, son médecin lui a demandé d'aller voir un cardiologue et ce dernier lui a demandé de laisser carrément les selles en la soumettant sous un autre traitement. Et avec tout cela, ça ne va toujours pas. Il n'y a pas eu d'amélioration. Et j'ai finalement décidé de lui dire d'arrêter de prendre les médicaments pour qu'il ne lui cause pas d'autres torts. Parce qu'en plus de ne rien lui servir, ces médicaments risquent, à mon avis, de la rendre plus malade. Donc finalement, je me demande à quoi servent tous les médicaments contre l'hypertension artérielle qu'on retrouve dans les pharmacies.
Zibrila, vous dites que votre mère a fait une crise. C'est quoi cette crise exactement ?
Bon, en fait, elle avait, quand elle marchait, elle sentait de la fatigue. En fait, elle ne pouvait pas fournir d'efforts, en fait. Avec peu d'efforts, elle sentait de la fatigue.
Une grande fatigue à 74 ans. Des médicaments, vous lui conseillez d'arrêter. Je vais donner la parole tout de suite au professeur Xavier Girard.
Zibrila, l'histoire de votre maman est très caractéristique d'histoires qui sont très fréquentes en Europe, qui sont des formes d'hypertension du sujet âgé. L'hypertension du sujet âgé, c'est une hypertension qui est difficile à soigner parce que les artères ont vieilli. Je le disais tout à l'heure en introduction, l'hypertension, c'est une maladie des artères. Nous avons une chance, nous, francophones, de pouvoir définir dans cette maladie la cause de la maladie. On dit hypertension artérielle. Les anglophones sont beaucoup plus démunis parce que c'est high blood pressure, la pression haute. La pression haute, on ne dit pas la cause. Alors que nous, en français, on sait que c'est les artères qui sont malades. Votre maman, Zibrila, a les artères de son âge, comme l'on dit. Et quand on a les artères qui ont perdu de leur souplesse, la tension est élevée et est élevée aux chiffres qui ont été signalés tout à l'heure dans l'histoire rapide que vous nous avez racontée. Alors, ces hypertensions sont difficiles à soigner. Le conseil de manger moins de sel est un très bon conseil. Je donnerais quand même le conseil d'avoir des médicaments pour tenter d'améliorer cette tension élevée. Ne vous désespérez pas en disant la tension n'est pas revenue à la normale avec les médicaments, mais sachez que les médicaments apporte toujours une prévention, une protection contre les maladies cardiovasculaires, en particulier chez les gens âgés. C'est la maladie du cœur, hein, l'insuffisance cardiaque qui, elle, peut provoquer essoufflement, fatigue. Donc je me pose la question, je ne peux pas faire la consultation de votre maman, si votre maman n'a pas un retentissement de l'hypertension au niveau cardiaque. Donc cela pousse à reprendre les médicaments antihypertenseurs. Il faut soigner l'hypertension chez les gens âgés, si on veut leur donner un peu plus de vie.
Voilà, Zibrila, pour ces conseils du professeur Girard. On vous souhaite une bonne journée à Bamako, au Mali. Il y a une question Facebook qui est posée par un auditeur qui s'appelle Abel. Quelle disposition une femme hypertendue doit-elle prendre pour le bon déroulement de sa grossesse, donc une hypertension chez un sujet forcément jeune?
Ah, ça, c'est une question qui est assez complexe. Il peut y avoir de l'hypertension au cours de la grossesse chez des femmes qui n'ont pas d'hypertension avant la grossesse. C'est une forme très particulière d'hypertension. C'est en fait une maladie du placenta. Hein, et donc, on n'en parlera pas ici.
Ça pourrait même faire l'objet d'une émission spécifique.
Ah, il faudrait, car c'est vraiment un vrai problème et c'est une cause de mortalité en Afrique qui est très importante. Hein.
Donc, on 10% note, on fera une émission là-dessus.
10% des femmes vont être hypertendues et il y a un risque réellement pour la maman et pour le bébé. Pour une femme qui est déjà hypertendue et qui a un désir et un projet de grossesse, il y a quelques précautions à prendre vis-à-vis du choix des médicaments à utiliser. Je rassure tout de suite toutes les femmes qui seraient enceintes et qui auraient leur traitement habituel, il n'y a aucun risque pour le bébé si on prend les bonnes décisions au cours du deuxième et troisième trimestre. Donc, une femme enceinte qui est hypertendue, bien évidemment, le médecin gynéco-obstétricien sait qu'il y a les traitements d'hypertension et va adapter les traitements.
Alors, professeur Xavier Girard, tout de suite, on va partir pour le Niger.
Priorité santé sur RFI.
Où l'on vous retrouve, docteur Haruna Bako, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes cardiologue spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux, chef de service de cardiologie de l'hôpital national de Niamey. Est-ce que vous avez des chiffres, docteur Bako, sur la fréquence de l'hypertension artérielle au Niger? Docteur Bako, je me demande si on ne vous a pas perdu en route. Docteur Bako, est-ce que vous êtes là?
Eh bien, allô?
Oui, vous êtes là. Alors, je reprends ma question. Sur ces chiffres de l'hypertension artérielle au Niger, est-ce que vous pouvez nous donner, justement, des indications chiffrées?
Oui, tout à fait. Donc, les habitudes de mode de vie et les habitudes alimentaires, ces derniers temps, avec les études portant sur des mémoires, des sujets de thèse qui sont réalisés dans les hôpitaux, ainsi que sur certaines enquêtes, nous avons pu trouver une prévalence de l'hypertension artérielle qui varie de 21 à 22% selon les cas, avec une mortalité intra-hospitalière allant jusqu'à 14%. C'est beaucoup.
Est-ce que d'après votre expérience, que vous observez, vous avez l'impression que la fréquence de la maladie augmente?
Oui, tout à fait, parce que nous sommes partis de 2005 avec une prévalence d'environ 8-10% et à l'heure actuelle, en 2017, nous sommes arrivés à pratiquement 21%. Et ça, selon les statistiques, vous avez à peu près donc une fraction, 50% des 15-44 ans, 60% de sexe féminin.
Professeur, docteur Bacco, la ligne nous joue des tours. Non seulement elle vous coupe la parole, mais en plus, par moment, on entend carrément plus ce que vous dites. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Non, hélas, je pense qu'on a perdu le contact avec Niamey. On abordait justement cette hausse, on va dire, de la fréquence de la maladie dans cette région sahélienne. Professeur Xavier Girard, est-ce que on peut dire que pour l'Afrique aujourd'hui en général, l'hypertension, c'est vraiment un sujet majeur de préoccupation sanitaire?
Ah, effectivement, c'est le sujet numéro un. L'hypertension, c'est la première cause des maladies dans le monde. L'Afrique, on le sait, est un pourvoyeur de population absolument considérable. Hein. Donc, il y avait 1 milliard d'Africains en 2000, il y en a 1 milliard 3 en 2016, et il y en aura 2 milliards et demi en 2050. On sait que ces jeunes Africains aujourd'hui vont devenir hypertendus. Comme tout le monde, comme tous les Africains, il y a en Afrique une prévalence de l'hypertension familiale qui est plus importante que dans d'autres pays du monde, dans d'autres continents. Donc, il se prépare aujourd'hui une explosion de maladies cardiovasculaires liées à l'hypertension artérielle qui doit de ce fait être prévenue si possible par les mesures nutritionnelles dont nous avons parlé, vraiment bannir le problème de l'alimentation enrichie en sel en excès, c'est un vrai message de santé publique. Et ensuite, le dépistage et l'organisation de la prise en charge de cette population qui est aujourd'hui très jeune, mais qui va arriver à l'âge de 30 et 40 ans et qui sera à ce moment-là réellement à prendre en charge. Sans prise en charge, les complications neurologiques en particulier sont absolument assurées. La première cause de mortalité en Afrique, madame, vous le savez sûrement, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le palu, ce n'est pas le sida, ce n'est pas l'Ebola, c'est l'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral, la première cause de l'AVC, c'est l'hypertension. La boucle est bouclée, il faut vraiment se relever les manches pour que l'hypertension devienne un sujet majoritaire de priorisation de santé.
Alors justement, on a retrouvé, hein, heureusement, le docteur Haruna Bacco. J'ai une question par rapport à ce qu'on vient de dire avec le professeur Xavier Girard. Cette hausse de la prévalence de l'hypertension en Afrique, du côté justement des traitements. Est-ce que ces traitements sont accessibles? Parce que lorsque le diagnostic est posé, bien sûr, il faut enclencher la prise en charge. Est-ce que c'est à la portée de la population?
Non, pas dans tous les cas, parce que nous avons énormément donc, de problèmes avec l'accès des médicaments. Là-bas, vous avez 60 à 65% qui des difficultés financières et des médicaments de coût. Il y a le coût des médicaments. Il y a le fait que les gens ont plutôt tendance à consulter chez les praticiens, à faire de l'automédication, la polymédication, et donc ça fait beaucoup de problèmes.
Est-ce que le fait justement aussi, docteur Haruna Bacco, ce sera ma dernière question, qu'il n'y ait pas de symptômes, de douleurs, de gêne, eh bien cela pousse quelque peu les patients hypertendus à abandonner leur traitement?
Oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup qui n'admettent pas que l'hypertension artérielle est une maladie. Ils le refusent et ils préfèrent, d'ailleurs il y en a qui confondent souvent les symptômes, les prodromes avec certains symptômes liés donc aux infections, notamment de palu. Il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire que j'ai le palu alors que ce sont des signes d'hypertension qui sont en train d'évoluer. Et il refuse de l'admettre. Il préfère en tout cas l'automédication chez les praticiens.
Docteur Bacco, restez avec nous parce que j'ai une question d'un auditeur qui est en ligne du chat d'Abéché. Il nous reste très peu de temps, Yaya, alors je vais vous demander de faire si possible assez vite. On écoute votre question.
Oui, allô.
Oui, allez-y, Yaya.
Oui, je vous écoute.
Allez-y, sur votre question, sur votre oncle.
Ok, d'accord.
Yaya, vous êtes là? Vous avez une question Donc moi j'ai la question sous les yeux parce que tout à l'heure on a préparé cette émission. Docteur Haruna Bako, je vais vous la poser directement. Yaya a un oncle qui a une cinquantaine d'années, 48 ans précisément, il est hypertendu et il souffre durant ce mois de Ramadan, il jeûne malgré justement sa maladie chronique. Alors il a des maux de tête, hein, des céphalées, des troubles visuels, il est très très fatigué. Est-ce que vous pouvez lui donner des conseils pour mieux supporter cette période un petit peu particulière?
Je pense que la première chose, madame, c'est de pouvoir d'abord arrêter le jeûne, parce qu'il y a des prédispositions quand on jeûne, quand on prépare, quand on est malade, il y a des prédispositions, on peut faire autre chose pour pouvoir compenser le jeûne. Et ensuite, prendre régulièrement ces médicaments, s'hydrater, parce que il y a beaucoup de... Avec la chaleur, nous sommes à 40-45 degrés. Et prendre, s'il est hypertendu, prendre régulièrement ses médicaments et consulter le médecin, son cardiologue traitant au besoin. Mais la chose la plus importante, c'est de ne pas pouvoir continuer le jeûne.
Et ça, bien sûr, c'est dit non seulement par les médecins, mais c'est dit aussi par les dignitaires religieux qui le soulignent. Quand on a une maladie chronique, quand on est enceinte, évidemment, il y a des exceptions, des exclusions pour le jeûne.
Tout à fait, madame.
Merci beaucoup, hein. Merci d'avoir répondu à nos questions. Docteur Haruna Bako, cardiologue, chef de service de cardiologie de l'hôpital national de Niamey.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
On arrive à la fin de notre échange, cette émission consacrée à l'hypertension artérielle. Professeur Xavier Girard, un point qu'on n'a pas encore abordé, les troubles du sommeil. Pourquoi est-ce que lorsque l'on dort mal, eh bien cela peut constituer un facteur aggravant à l'hypertension artérielle?
Alors, c'est je dirais une forme assez marginale de cause d'hypertension artérielle qui a été très populaire il y a une quinzaine d'années, en particulier les pathologies liées à l'apnée du sommeil. Alors les collègues pneumologues ont mis en avant les relations qu'il pouvait y avoir entre certaines formes de résistance d'hypertension et l'apnée du sommeil. Les suites à donner à ces apnées du sommeil et hypertension résistante en proposant une prise en charge de ces apnées du sommeil par la ventilation nocturne ont été en fait assez décevantes. Et aujourd'hui, les spécialistes de l'hypertension artérielle s'intéressent toujours aux troubles du sommeil, mais avec moins de certitude qu'avant. Quand on a une hypertension qui est mal contrôlée, il faut d'abord essayer de comprendre les causes, mais surtout adapter les traitements. Et tous les messages qu'on a reçus là sont finalement assez cohérents. Le traitement ne marche pas. Le traitement, je l'arrête. Qu'est-ce que je dois faire puisque ça marche pas? Eh bien, il faut voir un médecin qui va se reposer les questions. Pourquoi le traitement marche pas? Est-ce qu'il est mal pris? Est-ce qu'il est mal donné, mal prescrit? Il y a des spécialistes de l'hypertension, c'est plutôt les cardiologues. Et puis, il y a même des spécialistes de l'hypertension qui sont là pour voir les cas les plus difficiles. On arrive à traiter les hypertendus dans la très grande majorité des cas.
Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, professeur Xavier Girard. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation de Recherche sur l'hypertension artérielle, cardiologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'activité physique, on en parle tout de suite dans Priorité Santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, docteur Sen, vous allez nous parler des bienfaits de l'activité physique chez les personnes âgées, hein. Alors, quand on vieillit, on a parfois tendance à un petit peu moins bouger. Quels sont les facteurs qui favorisent cette sédentarité, cette envie de rester à ne rien faire ou à beaucoup moins bouger chez les personnes âgées?
Et oui, lorsque l'on a plus de 65 ans, on s'adonne pas suffisamment aux activités physiques pour préserver sa santé. Ça, c'est une constatation qui est dramatique, d'autant qu'on va se rendre compte qu'il y a un effet absolument bénéfique à faire de l'activité physique. Alors, pour plusieurs raisons, hein, les personnes âgées ne font pas suffisamment d'activité physique. C'est d'abord parce parce qu'ils ont peur de tomber. Très souvent, c'est le risque principal. Et puis, les conditions de santé sont déjà détériorées. Donc, là aussi, les personnes se disent, mais voilà, vu que j'ai cette pathologie, je vais plutôt rester assis et pas faire d'efforts. L'isolement aussi provoque quelquefois ce manque de motivation, la perte d'autonomie, évidemment, et puis le manque de connaissances sur les bienfaits de l'activité physique.
Alors, bien sûr, on parle de tendance générale, hein, docteur Sen, parce que celles et ceux qui nous écoutent, certainement parmi eux, de très nombreuses personnes qui un certain âge bougent beaucoup en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire continuer de faire du sport au quotidien quand on a pris de l'âge? Quels sont ces bienfaits?
Alors, les bienfaits sont nombreux. D'abord, ça renforce l'équilibre et ça prévient les chutes. Et puis, c'est protecteur pour beaucoup de maladies chroniques et de problèmes de santé. Ah, on sait que lorsqu'on souffre d'arthrose, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle, de diabète, certains cancers, l'ostéoporose, l'angoisse, la dépression, eh bien, tout ça va être traité littéralement par une activité physique régulière. On sait aussi que c'est bénéfique pour des capacités fonctionnelles et cognitives, c'est-à-dire ça agit sur la mémoire, l'attention, ça améliore le sommeil et puis ça améliore l'intégration sociale, ça lutte contre l'isolement. Donc, en gros, ça améliore la qualité de vie de nos personnes âgées.
Alors, est-ce qu'il y a des choses particulièrement recommandées? Quelles activités physiques, justement, qui correspondent vraiment aux besoins, aux attentes et aux compétences aussi des personnes âgées?
Alors, pour ça, l'OMS a fait des recommandations. Il faut au moins pratiquer 2h30 d'activité physique modérée ou 75 minutes, 1h15, la moitié d'activité physique intensité soutenue. Alors, ça veut dire que cette activité peut être...
Chaque semaine, parce que vous n'avez pas donné la fréquence.
Voilà,
pas chaque
semaine.
Jour, hein.
Pas chaque jour, effectivement, chaque semaine. Oui, parce que 2h30 par jour, ça fait beaucoup. Alors, ça c'est idéal. Et on peut même, quelquefois, si c'est possible, on peut doubler la durée hebdomadaire jusqu'à 5 heures. Alors, ce qui est important, c'est de dire que cette durée peut être fractionnée dans la semaine, justement, par période d'au moins 10 minutes. Il faut au moins faire 10 minutes cette activité. Et pour ça, tous les sports sont conseillés, en tout cas beaucoup de sports peuvent être faits. La marche, ça c'est toujours vrai. Et puis on peut faire la danse par exemple, ça c'est formidable, faire de la nage, faire du vélo si on peut, mais il y a d'autres activités qui sont peut-être pas des activités sportives, mais qui peuvent être tout à fait ludiques, comme le jardinage, certaines activités professionnelles, certaines tâches ménagères.
Alors là, je vais vous arrêter.
Oui,
non,
mes activités professionnelles, moi j'adore repasser.
Je vous laisse libre de vos vices,
bon,
Jean-Marc.
Alors, et donc les sports peuvent être adaptés aux seniors, comme je pense au tai chi, à la gymnastique, tout ça c'est absolument formidable.
Là je vous suis.
Et puis associé à cela, ça c'est une recommandation auquel je tiens beaucoup, c'est que il faut associer à ces activités, par exemple, le travail de l'équilibre pour prévenir les chutes et puis faire du renforcement musculaire. Ça, c'est important parce qu'avant de se déplacer, il faut porter son propre corps et donc faire du renforcement musculaire. Ça, c'est quelque chose de très important. Le but étant de rester, lorsque vraiment on a une grande dépendance et moins de capacité physique, le plus actif possible. Voilà les conseils qu'on peut donner à nos chers seniors.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France du judo et roi du fer à repasser. À très bientôt dans Priorité Santé.
Je peux pas prendre votre linge.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tout ça, Maquéophile, la scène Didier Bleu. Demain, nous parlerons de l'alcoolisme, j'en perds la voix. Comment sortir de la dépendance? On attend vos messages sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous joindre au 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
Priorité santé avec Suno Assurance. Comme les prévoyants maîtres de chantier, profitez d'une assurance tout risque chantier. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Écoutez.